Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas mon compteur avec Maud Bigand. Bonjour Maud.
Et bonjour Florian.
Aujourd'hui, tu consacres cette émission à un sujet qui est très d'actualité.
Tout à fait.
Le coronavirus.
Voilà, on avait enregistré la semaine dernière une émission pour passer cette semaine qui était à propos de monsieur Beljanski, le docteur Mirko Beljanski, qui avait inventé donc des produits naturels et très efficaces contre le cancer. On l'avait évoqué très rapidement. Mais là, on passera cette émission la semaine prochaine ou la semaine suivante parce que effectivement, l'actualité nous rattrape. Et je voudrais faire une émission spéciale coronavirus parce que bon, j'ai la chance de parler anglais et du coup, ça me donne accès à beaucoup d'informations que peut-être les francophones purs et durs, on va dire,
ne pourraient pas voir. Tu vas aider nos auditeurs à décrypter un peu les articles en anglais.
Exactement, ouais. Et voir des éléments qui peut-être ne leur parviennent pas en France et essayer de synthétiser un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes évidemment autour de ce sujet, mais il y a quelques éléments qui se dégagent complètement comme des certitudes et je voudrais les mettre en avant.
Donc principalement de ce qui se passe en interne en Chine.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a un élément qui est très clair et qui, pour une fois, commence à être évoqué dans la presse française. Donc, par exemple, dans le Canard de cette semaine, donc du 12 février, vous avez un article en première page qui s'intitule « Ennui de Chine ». Et pour la première fois, enfin à ma connaissance, on commence en France à remettre sérieusement en doute les chiffres de mortalité, notamment donnés par les Chinois, ce qui me paraît à moi une évidence. Donc je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, les derniers chiffres qui ont été donnés,
dernièrement, c'est à peu près 40 000 personnes touchées.
D'accord.
Et 1 000 morts.
1 000 morts.
Voilà. Alors, en fait, on est très en deçà de la réalité. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que à l'heure où je vous parle, il y a 80 villes chinoises qui sont en quarantaine, c'est-à-dire incluant Pékin, incluant Shanghai, incluant Shenzhen, et bien sûr Wuhan où a démarré l'épidémie. Mais effectivement, ça représente à peu près 400 millions de personnes. Donc vous avez 400 millions de personnes à qui on a dit restez chez vous, après les vacances entre guillemets du Nouvel An chinois, ne retournez pas travailler, dans une nation quand même qui depuis des décennies met une priorité absolue sur le développement économique, sur le travail justement de toute la nation, qui a atteint un niveau de développement, un poids au niveau mondial qui est maintenant crucial. Vous ne paralysez pas l'économie au complet, la production qui maintenant donc est d'ailleurs en chute libre. Vous avez vu qu'au niveau des exportations de la Chine, ça a énormément baissé. Tu le mentionnais tout à l'heure en off, on va dire le prix du pétrole baisse forcément puisque on a maintenant des quantités en surnombre puisque la Chine ne les consomme plus. Idem pour le cuivre.
Un des premiers importateurs et consommateurs.
Et consommateurs, parce forcément qu'ils sont devenus, on va dire, les manufacturiers du monde. Ce qui, d'ailleurs, va poser de graves problèmes quand même, quel que soit le venir de ce virus ultérieurement dans d'autres pays, pour la Chine, qui elle-même représente maintenant plus de 17% de l'économie mondiale, on va avoir des impacts terribles. Par exemple, je vous invite, si vous parlez un peu anglais, à voir cet article du Télégraphe qui cite l'économiste Evans Pritchard. On parle des dangers autour de l'économie, si vous voulez, l'économie de la Chine qui représente 17%, alors qu'au moment du SRAS, vous savez, en 2003, où il y avait aussi une épidémie bien moindre que celle-là, évidemment, elle ne représentait que 4,5% du PIB mondial, mais elle était déjà quand même assez importante. Mais maintenant, on ne peut pas vraiment penser que quand il va y avoir un impact, si vous voulez, sur la Chine, il ne va pas y avoir d'impact sur le reste du monde au niveau économique. Voilà. Donc lui, il dit, de nos jours, on ne peut plus fermer la Chine longtemps sans fermer le monde. Parce que les produits chinois rentrent dans énormément de chaînes de process, si tu veux, de nos propres pays, et qui font que tu vas avoir des produits qui manquent et qui vont empêcher la poursuite et la finalisation de la fabrication de certains certain nombre de choses.
Et on parle d'une quarantaine qui est de grande ampleur. C'est alors, pas la plus grosse de l'histoire.
On va, ben, pour moi, oui, parce que 400 millions de personnes. D'ailleurs, ça ne marche pas, comme on va le voir. Hein. Alors, juste pour comparer, parce que quand je vous dis, ces chiffres sont évidemment forcément largement sous-estimés, puisqu'en Chine, on a cette priorité absolue sur l'économie, et là, on est en train de bloquer l'économie complètement, de mettre en péril le pays déjà, puisque bon, le monde peut-être sur d'autres plans, mais au moins le pays. Vous avez des personnes qui, des entreprises qui sous-traitaient en Chine, qui vont se tourner vers d'autres pays pour mettre leur sous-traitance ailleurs, si ça s'éternise un peu trop. Et vous avez évidemment une chute énorme de revenus. Vous avez même pour les emplois locaux, les emplois de services locaux, indépendamment de tous ceux qui fabriquent au niveau industriel pour l'exportation, vous avez évidemment des choses qui vont être tout à fait dramatiques pour l'économie locale. Ça ne peut pas durer longtemps. Et en tout cas, on ne se lance pas dans ce genre de choses pour 1000 morts. Je rappelle, à titre de comparaison, qu'en France, il y a au moins 2000 morts par an de la grippe. Bon, c'est peut-être des gens qui étaient déjà fragilisés par autre chose, qui sont parfois, évidemment, âgés, qui vont avoir ça comme coup de grâce, on peut dire. Mais on enregistre aussi, d'une certaine manière, en disant c'est la grippe qui les a tués.
Et comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas une procédure en cas de virus?
Alors, juste ce que je veux dire, c'est que en France, si tu veux, on a 65 millions d'habitants à peu près, et donc 2000 morts par an de la grippe au minimum. Hein. En 2014-2015, on disait qu'il y avait 18 000 morts, donc tu vois, c'est quand même très variable. Mais c'est 2000 au minimum. La population chinoise, c'est 1,4 milliard d'habitants. Donc tu as déjà forcément à peu près, au moins 20 fois plus, si tu veux, de risque de cas de grippe, puisque bon, on est quand même à peu près au niveau de la même biologie, et donc ils doivent avoir au moins 40 000 morts par an de grippe. Et là, on ferait tout ça, on bloquerait toute l'économie, on mettrait le pays en péril, et vous allez voir qu'ils ont pris des mesures draconiennes, pour 1 000 morts. Soyons sérieux, quoi. Là, on est vraiment dans des choses qui sont ridicules.
Tu penses que les chiffres sont carrément faussés?
Ça paraît évident, quoi. Évident. C'est d'ailleurs dit par beaucoup de monde par ailleurs. Hein. Donc voilà, je vous citerai différentes choses, mais là, je voudrais simplement en appeler à votre bon sens. Quand on parle de quarantaine, puisque tu me posais la question. Ça veut dire que on demande aux gens de rester chez eux. On demande, voire on force. Il y a même certaines villes ou certains quartiers où il y a les portes d'entrée des immeubles ou des maisons où les gens étaient infectés qui étaient murées. Qui était avec soudé, avec des voilà, on a des vidéos qui le montrent. Alors il y a une censure terrible, vous le savez, hein, pour empêcher, c'est d'ailleurs un peu louche aussi, hein, pour empêcher que les éléments sur la situation ne filtrent jusqu'à nous. Rappelons aussi que la Chine a refusé la venue de l'OMS pour une aide quelconque. On dirait qu'ils veulent effectivement surtout cacher ce qui se passe. Alors ça filtre quand même, je disais, il y a des gens qui montrent des personnes qui essayent de passer des blocus, des barrages dans les rues, si tu veux. Il y a des villes où tu as des familles qui vont être autorisées à laisser sortir une personne tous les deux jours pour aller faire des courses de nourriture, sachant que, bien évidemment, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à manger dans ces villes claquemurées, parce que à cause des blocus routiers ou autres, et puis de la peur peut-être, et puis aussi des victimes, eh bien, tu as beaucoup, beaucoup de magasins qui ne sont plus du tout approvisionnés. Donc, quand ça dure depuis 20 jours, par exemple, c'est très très difficile de pouvoir survivre. D'ailleurs, c'est peut-être aussi en partie pour ça que nos pays occidentaux font semblant de croire les chiffres donnés par la Chine, parce que si les personnes réalisent l'ampleur de la dangerosité de ce virus, alors il est dangereux pour les Asiatiques, on va voir qu'il est peut-être moins dangereux pour les Européens, à voir, à cause de spécificités génétiques. En tout cas, si les gens se mettent à craindre ici la même chose que ce qui se passe là-bas, ils vont peut-être réaliser qu'ils n'ont pas du tout pour 20 jours ou un mois de nourriture dans leur placard, et tu vas avoir des paniques dans les magasins, tu vas avoir des gens qui vont prendre de l'essence.
Ici aussi, tu veux dire, en
oui,
France
bien sûr,
ou dans
en France
pays,
ou n'importe
ouais.
qui. Si tu commences à dire, regardez l'ampleur réelle de la dangerosité de ce virus, je répète là, en Asie, si les gens se disent ça peut être la même chose pour nous, alors ils vont se précipiter pour acheter des tas de choses. Ils vont se précipiter pour faire le plein d'essence.
Si on sait qu'il commence tout juste à se propager, que ça devient incontrôlable aussi.
Oui, mais en fait, là-bas, le souci, c'est qu'effectivement, on a vu qu'ils ont quand même pris, c'est un régime autoritaire, la Chine, ils ont pris des mesures absolument draconiennes et qui n'ont pas marché. Donc, si les gens se disent que ça va être la même chose, ils vont se précipiter pour aller retirer du liquide parce qu'ils se disent on est à la veille d'un crash financier parce que la Chine, elle risque pas de se débarrasser de son coronavirus si vite. Donc, si elle ne force pas ses employés salariée à retourner au travail malgré les risques, eh bien, elle continue à bloquer son économie et donc on va avoir un gros problème au niveau mondial, ce qui est possible, hein, bien sûr. Vous avez aussi possiblement une stratégie inverse du président Xi Jinping qui va peut-être dire qu'effectivement, écoutez, tant pis, on en reparlera juste après, mais on estime à environ 15% de mortalité ce virus. Alors c'est au-delà des chiffres évidemment qui sont officiels, mais il y a plusieurs points concordants qui le montrent, comme je vais vous le montrer. Effectivement, il pourrait, au bout d'un moment, choisir d'arrêter de bloquer le pays et de se dire, bah, tant pis, on aura 15% de pertes, mais il faut qu'on continue à faire marcher les usines, il faut qu'on continue à faire marcher l'économie, sinon les gens vont tout simplement mourir de faim aussi. Et puis, il va commencer à y avoir une instabilité sociale. C'est d'ailleurs ce que souligne le président. Il y a des articles, si tu veux, dans la presse asiatique, comme le South China Morning Post, par exemple, qui évoque des choses où tu as le président qui dit que, attention, ça pourrait être dangereux pour la stabilité du pays, ce virus. Donc, on est vraiment dans un contrôle du narratif, mais on est dans quelque chose qui essaye d'être vraiment assez contrôlant, quoi, assez clair.
Ouais, sûrement. Alors, que la Chine veut montrer à tout prix qu'elle contrôle aussi la situation.
Quel contrôle, oui, tout à fait.
Peut-être qu'elle,
vous avez un article,
sur les chiffres aussi,
un article que vous pouvez regarder, c'est Bloomberg, là. Hein. Donc, ça s'appelle Xi Jinping, j'ai du mal à prononcer tout ça, warns virus may impact China's social stability, c'est ce que je vous disais. Donc, il avertit le président que ça pourrait impacter la stabilité sociale de la Chine. Et effectivement, dans cet article du 4 février, eh bien, il s'engage à arrêter l'épidémie et à atteindre les buts économiques de 2020. Donc il essaye de rassurer tout le monde, quoi, les investisseurs. Voilà. Donc effectivement, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on a une situation comme ça, que on interdit aux gens de sortir, que on bloque l'économie, que on a des gens qui vont être affamés. On a des gens qui commencent à ruer dans les brancards à cause de la censure. Rappelons cet ophtalmologiste, vous savez, qui vient de mourir. Il a été mentionné dans la presse française aussi, Li Wenliang, donc qui avait été arrêté en décembre parce qu'il avait averti un peu déjà à l'époque ses proches et collègues des risques du virus et qu'il avait été arrêté par les pouvoirs chinois pour avoir répandu de fausses rumeurs. Donc on n'était pas du tout dans cette procédure. Tu me disais, est-ce que c'est toujours la procédure, on met en quarantaine quand on a un virus? Non, dans la première instance, tu vois bien que c'est le déni de la dangerosité. Et dans un deuxième temps, effectivement, à ce moment-là, quand on est rattrapé par la réalité, eh bien là, on met en place des espèces de mesures draconiennes. Alors, vous avez peut-être pas vu ces photos où on voit des gens carrément couchés dans la rue, ramassés par des vannes avec des personnels soignants habillés de pied en cap, de combinaisons protectrices, de lunettes de sécurité. Peut-être en avez-vous vu certaines photos. En tout cas, vous voyez quand on les amène à l'hôpital ou quand on les amène dans des nouveaux hôpitaux qu'ils ont construits, là, qui sont assez étranges. Ils ont des barreaux aux fenêtres et ils ont des portes qui s'ouvrent que de l'extérieur.
Des hôpitaux construits en quelques jours.
En quelques jours, ça ressemble à des Algeco prisons, quoi. C'est un petit peu spécial. Enfin, disons, quand on voit qu'on va venir chercher les gens chez eux pour les mettre dans ces environnements-là, pour certaines villes, pour d'autres, au contraire, on empêche les gens de sortir de chez eux, y compris en éventuellement mettant une porte soudée devant, une sorte de barrière, si tu veux, soudée devant les portes. Quand tu vois des gens qui témoignent parce que ils vont voir les hôpitaux, ils montrent la manière dont c'est absolument surpeuplé, donc l'ensemble des victimes, comme ce journaliste, vous savez, c'est un citoyen journaliste qui s'appelle Shen Qiuxi. Et lui, bah, il a disparu après avoir fait passer quelques vidéos, si tu veux, de tout ça, de ce qui se passe, en contournant la censure des réseaux sociaux chinois. Il a même, cette personne-là a été mentionnée à l'ambassadeur chinois en Amérique, qui a été interviewé très récemment sur ce sujet-là et sur d'autres. Effectivement, voilà, on voit que la Chine est très active pour essayer de contrôler le narratif. Donc, vraiment clairement, on a des chiffres sous-estimés. On a une situation dramatique pour une très grande majorité des Chinois. Le ratio réel de mortalité pourrait être bien plus élevé que ce qui est donné. D'ailleurs, ce qui est très très bizarre, c'est que si vous regardez les chiffres officiels qui sont donnés jour par jour des autorités chinoises entre le nombre de personnes, si tu veux, qu'on a diagnostiquées comme ayant le virus et le nombre de personnes qui en sont mortes, tu as constamment le ratio de 2,1. Tous les jours, c'est 2,1, 2,1, 2,1. Donc, on est vraiment dans un maquillage mathématique de la chose. Alors, le ratio de mortalité serait plutôt de 15%. Comment on le sait ? Pour le moment, il y a trois éléments qui convergent. D'abord, il y a une étude parue dans le Lancet, une étude intitulée « A Familial Cluster of Pneumonia Associated with the 2019 Novel Coronavirus Indicated Person-to-Person Transmission » A study of a family cluster. Donc ça, c'est une étude du Lancet qui indique qu'il y aurait un taux de mortalité de 15% et un taux d'infection de 83%. C'est-à-dire pour 100 personnes, si tu veux, tu en aurais 83% qui l'attraperaient et 15% qui mourraient. D'accord ? Parmi les 83%, tu vas avoir 15% qui vont mourir. Donc c'est pas 15 personnes qui vont mourir, c'est 15% de 83.
Ouais, ceux qui en meurent, je crois que c'est dû aussi à leurs problèmes cardiaques et tout ça.
Alors le souci, c'est qu'effectivement, alors il y a des rapports qui semblent montrer que ça s'attaque pas uniquement aux aspects respiratoires, mais également
diabétiques, diabète et tout ça.
En fait, ça crée des ils appellent ça en anglais multiple organ failure, c'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes avec ton foie aussi et les reins sont attaqués. Donc tu vas avoir effectivement des gens qui vont potentiellement mourir ensuite en cascade de plein d'autres choses, mais ça paraît assez dramatique puisque tu as des gens qu'on voit carrément avec des vidéos ou des photos, on les voit tomber dans la rue quand ils ont eu la chance de sortir, ou tu vois à Hong Kong où c'est pas encore sous quarantaine, tu vois des gens dans la rue et crac, tu as des gens qui tombent, quoi, voilà, carrément, ou qui font leur marché et qui sont vus écroulés sur les étals du marché, donc vraiment ça a l'air vraiment assez dramatique. Alors cette étude du Lancet, elle a un petit nombre de cas, donc elle est effectivement emblématique, mais pas très représentative d'un point de vue statistique. Il y a également une conférence qui a eu lieu, qui est intéressante en fait, cette conférence de presse qui émane du régime communiste hein, quand même, donc qui justement est évoquée dans le South China Morning Post. Elle se veut rassurante. C'est un article qui s'appelle « Coronavirus Recovery Rates, Promising Infectious Disease Experts Says ». Le problème, c'est qu'effectivement, ça n'est pas tout à fait prometteur parce qu'on nous dit que 82% des cas sont bénins, donc pas de problème. Par contre, 18% des cas sont problématiques ou carrément critiques. Chez les problématiques, il y a 6% de taux de survie et chez les critiques, il y a 1% de taux de survie. 99% qui en meurent. Alors si on se dit qu'à peu près on a les 14% de personnes qui sont en état sérieux et 4% qui vont être dans un état critique, parmi ces 18% qui ne sont pas bénins, on retrouve, avec les taux de survie dont on vient de parler, on retrouve à peu près ce 15% de mortalité qu'on vient d'évoquer. Et puis, il semble qu'il y ait aussi des personnes, peut-être, à savoir, qui cherchent à faire passer des informations sur ces chiffres au-delà de la censure, parce que vous avez des articles, comme cet article de Zero Hedge, « Did China Tencent accidentally leak true terrifying coronavirus statistics ?» Donc l'idée là, c'est qu'effectivement, vous avez une sorte de site internet où vous avez, en temps réel, théoriquement, les évolutions de nombre de cas, des personnes qui auraient survécu, des personnes qui seraient mortes. Eh bien, figure-toi qu'à... Alors ça, c'était, ça s'est rapporté par... on va dire une news taïwanaise, si tu veux, c'est Taiwan News, ça s'appelle, qui indique que à 3h30 du matin, heure de Taipei, on aurait vu apparaître, pour un temps assez bref, des chiffres différents. On aurait vu apparaître, à l'époque c'était 14 000 personnes atteintes et 304 morts, on aurait vu apparaître 154 000 personnes atteintes et 24 500 morts en gros, 24 589 morts. Donc ça c'est transitoire, mais effectivement ça pourrait être beaucoup plus proche de la réalité. Et puis tu as d'autres gens, par exemple, dans cet article dont je vous ai parlé, on y cite également le fait que des personnes auraient été victimes, si vous voulez, du coronavirus, mais les familles se plaindraient qu'il y ait une différence entre ce qu'on leur a dit et ce qui est marqué sur le certificat de décès, qui parle de pneumonie au lieu de parler du coronavirus, par exemple. On parle également de kits de tests qui ne sont plus du tout suffisants. Alors, on parle d'un nombre de kits insuffisants, mais on parle aussi du fait qu'ils ne seraient pas assez efficace. Alors, je vous invite à lire justement du South China Morning Post l'article Race to Diagnose Coronavirus Patients Constrained by Shortage of Reliable Detection Kits, qui veut dire que, en fait, seulement 30 à 40% des vrais cas seraient relevés dans ce cas-là. Et juste pour terminer, je sais qu'on a plus beaucoup de temps, je voulais vous dire qu'ils viennent juste de changer les règles. Ils ne prendront plus en compte les cas des personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire les gens qui sont porteurs mais qui n'ont pas l'air d'avoir de symptômes, cela on les comptera plus dans les cas exposés. Donc autant vous dire qu'on est en pleine manipulation. On verra la semaine prochaine pour le reste.
Merci.
À bientôt.